La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag et c'est l'heure de découvrir la solution de Benjamin Lévesque aujourd'hui.
Et oui, aider les réfugiés à s'insérer dans la vie professionnelle et entrer dans les métiers du numérique. Benjamin Lévesque, c'est la solution du jour et ça s'appelle Pimp My App.
Et oui, bonjour Romain Dosset.
Bonjour.
Alors vous êtes le fondateur du programme Pimp My App. Alors c'est un programme qui existe depuis près de 3 ans maintenant, mais à l'origine, il me semble que c'était pour tout le monde, pas forcément les personnes réfugiées, c'est ça ?
Oui, absolument. On a fait le pari avec Pimp My App de créer un programme à un temps très réduit pour venir en aide à des personnes qui rencontrent des obstacles pour aller dans des métiers du numérique. Et on a commencé, effectivement, il y a 3 ans, avec un programme pour venir en aide à des jeunes qui veulent faire des études supérieures dans le numérique en alternance. Et pour faire des études supérieures dans le numérique en alternance, il faut trouver une entreprise d'accueil. Et le constat est que ces jeunes-là ont du mal à rassurer l'entreprise, ont souvent un CV vide et ont du mal à trouver.
Mais alors par la suite justement, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ces personnes réfugiées ?
Alors, en fait, en créant le programme Pimp My App à la première édition pour venir en aide aux alternants, on s'est rendu compte que le programme allait bien au-delà que simplement leur permettre de rajouter une ligne sur leur CV. Ça leur permettait de prendre confiance en eux, de se sentir légitime vis-à-vis des grandes entreprises et de déclencher les choses pour eux, de rassurer, de pouvoir réussir un entretien et trouver un emploi. Et en fait, on s'est rendu compte en travaillant avec des associations qui nous ont accompagnés sur Pimp My App pour les alternants, à savoir l'émission locale par exemple ou la fondation Agir contre l'exclusion, que ces associations-là accompagnent aussi des publics de réfugiés et que les problématiques pour l'accès à l'emploi dans le numérique étaient les mêmes.
Alors des réfugiés qui viennent de plusieurs pays, lesquels par exemple ?
Alors nous, on n'a aucun critère de sélection au niveau des pays, donc il y a beaucoup de nationalités.
Très variées, ouais.
Ça varie, majoritairement quand même dans les faits, c'est des personnes qui viennent du Soudan, de Syrie ou d'Afghanistan. Mais ça reste très ouvert. Et nous, en fait, on se base sur le tissu associatif beaucoup, puisque c'est un sujet dans lequel on s'est lancé parce qu'il nous tient à cœur. C'est vrai que c'est les opportunités qui ont fait qu'on a rencontré des réfugiés à diverses occasions, lors d'événements, lors de conférences, et on a pu croiser ces personnes-là, découvrir des parcours de vie qui sont très émouvants, où effectivement, quand on écoute ce qu'ils ont traversé, où ils en sont aujourd'hui, et la motivation qu'ils ont à aller travailler, trouver un emploi, être libre et s'en sortir, ça génère qu'une seule envie, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour pouvoir les aider.
Alors justement, ce programme, concrètement, comment ça se passe ? C'est 2 semaines, il me semble, c'est ça ?
Oui, c'est 2 semaines.
Et qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, le but du programme, c'est d'aller chercher des entreprises, des grands groupes français, qui vont nous confier des vrais sujets chez eux concrets, des problématiques d'innovation, des sujets qu'ils veulent réaliser, qui vont prendre la forme d'applications web, d'applications mobiles, et de prendre ces sujets-là, de les confier à des groupes de personnes, donc des réfugiés pour la prochaine édition de Pimp My App, et de les accompagner à arriver jusqu'à la présentation d'une solution pour le grand groupe qui prend la forme d'un prototype et assorti d'une présentation orale, donc d'un pitch. Donc ça, c'est pour la première semaine du programme.
D'accord.
Et la deuxième semaine du programme...
Donc un projet, et ensuite, ils le réalisent.
Oui, ils le réalisent, ils créent une maquette, ils présentent un concept qui vient en réponse à une problématique. Donc nos consultants, les personnes, les coachs du programme les accompagnent. Et le deuxième aspect du programme, c'est qu'on essaie de leur donner aussi la matière pour pouvoir après vendre cette expérience.
Ah, donc la prise de parole en public, c'est ça ?
Vendre ? C'est ça, c'est se vendre, c'est être inspiré, c'est rencontrer, on fait venir des intervenants qui peuvent être des entrepreneurs, qui peuvent être des sportifs de haut niveau. On a un sportif en para-badminton qui vient leur parler de motivation, du fait que un handicap ou peu importe quel handicap, ça peut être transformé en vrai argument. On a des journalistes aussi, comme Rachid Arab.
Les aider à prendre la parole.
Ouais.
Juste Guillaume Gibault, notre coach.
On a des belles boîtes comme Simplon, que vous connaissez sûrement, très axées sur ces sujets de réinsertion notamment, ou l'école 42, qui sont des vraies belles écoles sur ces sujets. Est-ce que vous avez noué des partenariats avec eux pour, au-delà des 15 jours, peut-être orienter vos élèves vers autre chose ?
Alors, on a pris le parti de ne pas avoir de partenariat très poussé avec les écoles pour rester indépendant et pouvoir conseiller les jeunes, finalement, de manière très indépendante vers tout un tas d'écoles. Parce que dans les écoles, en particulier dans l'alternance, il y a beaucoup d'écoles privées et c'est vrai que chacune a son modèle économique et parfois c'est pas l'avantage du jeune. Donc nous, on se positionne un peu en dehors de ça. Par contre, on a effectivement des jeunes qui nous sont redirigés par Simplon, par le CNAM, par des écoles qui aiment bien ce qu'on fait, qui pensent qu'on peut avoir une aide concrète pour leurs jeunes dans leurs écoles.
Merci Romain Dossé de nous avoir présenté Pimp My App. Donc c'est une solution pour aider les jeunes réfugiés pour accéder à des métiers du numérique. Merci à vous.
Merci à vous.
Il est midi 58. Europe 1. Restez avec nous dans La France Bouge. Nous nous intéressons aujourd'hui aux innovations qui concernent notre qualité de l'air. La qualité de l'air, est-ce que ça vous préoccupe? On vous attend au 39-21 bien sûr.
Europe 1, midi 14h, La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France bouge, seconde partie, gros plan aujourd'hui sur la qualité de l'air, enjeu majeur de santé publique. Que respirons-nous et comment améliorer l'air que l'on respire? Bonjour Romain Simia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'AtmoTract. AtmoTract, c'est le premier réseau de surveillance de la qualité de vie environnementale. Vous dites ça, d'ailleurs, dans vos différents pitchs. C'est quoi la qualité de vie environnementale?
En fait, la qualité de vie environnementale, ça va être un ensemble de paramètres qu'on va venir mesurer. Donc, on va avoir la qualité de l'air. Donc, ça, c'est vraiment le composant principal qui va venir nous impacter au quotidien. Et en fait, ça va être aussi tout un ensemble d'autres paramètres, comme par exemple le niveau sonore, la température, l'humidité, qui vont faire en fait qu'on va se sentir bien ou non au quotidien, en fait, dans notre vie de tous les jours. Dans la ville.
Donc vous mesurez à travers plusieurs paramètres l'air qui est autour de l'air que l'on respire.
C'est ça, donc on va mesurer en fait les
quoi,
particules fines, les différents gaz, en fait le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone, l'ammoniac. Et en fait ça va nous permettre en fait d'avoir pas mal de données sur toute la ville, sur toute la collectivité, le territoire, pour justement en fait comprendre ce qui se passe, d'où vient la pollution et en fait quels sont les impacts sur notre santé au quotidien.
Donc vous avez créé votre propre réseau de mesures.
C'est ça, en fait on a des capteurs qui sont fabriqués donc en interne, qu'on vient fabriquer donc en France, donc c'est des capteurs made in France, et qu'on va venir en fait déployer sur des véhicules, du mobilier urbain, des bâtiments, pour venir justement récupérer cette donnée partout sur le territoire.
Vous les mettez où ces capteurs?
On peut le mettre sur les toits des véhicules, sur les bâtiments, donc sur les façades, ou par exemple on est aussi sur des... tout ce qui va être en fait abribus, lampadaires.
Ils sont discrets, on peut les voir.
Oui, c'est des capteurs qui font 15 par 15, qui font à peu près comme un détecteur de monoxyde de carbone qu'on a chez soi.
Oui. Guillaume Gibault est avec nous, c'est notre coach du jour et il a une question pour vous.
J'ai une question pour vous. Moi, ce matin, en allant travailler, j'ai vu le panneau de la mairie de Paris sur lequel il y avait un indice de pollution qui était faible ce matin et je me suis fait la réflexion de me dire en fait, ça veut dire quoi faible déjà, qu'est-ce que ça veut dire et par rapport à cette offre et cette information-là, qu'est-ce que vous apportez en plus? Qu'est-ce qui est différent? Quel est le modèle et...
En fait, vous greffez là-dessus. Toutes ces informations en fait, sont délivrées par AirParif sur Paris. Donc, on a les différents organismes qui sont équivalents dans l'Est de la France. Et en fait, c'est un indice qui va se baser en fait, sur plusieurs gaz qu'on va venir mesurer. Et l'indice en fait, va représenter le polluant qui va être le plus élevé sur le territoire. Donc, même si tous les autres polluants sont faibles, si on en a un seul qui est très élevé, ça va justement définir l'indice de pollution sur le territoire. Nous, ce qu'on vient apporter, justement, c'est un outil qui va permettre donc, à ces organismes d'avoir une mesure plus précise sur le territoire, de venir en fait compléter leur réseau de mesure. Donc en fait, on a pour l'instant des grosses stations officielles qui mesurent la qualité de l'air sur le territoire. Et nous, on vient apporter en fait un réseau de mesure complémentaire pour venir justement avoir de la précision à l'ordre de la rue, pour vraiment savoir en fait ce que les gens respirent au quotidien.
Alors vous parlez de polluants le plus élevé, hein, donc tout ça c'est aussi pour veiller à notre santé, notre bien-être, parce que Benjamin, les dangers pour notre santé sont très importants en ce qui concerne la qualité de l'air.
Oui, les effets sont très variés sur la santé. Alors c'est principalement au niveau respiratoire et cardiovasculaire, hein, puisque les particules ultra-fines elles passent dans nos poumons jusqu'aux alvéoles pour rejoindre la circulation sanguine. C'est donc des maladies respiratoires, hein, comme des crises d'asthme, des allergies, une inflammation des poumons qui peut parfois provoquer des cancers. Faut savoir qu'on respire en moyenne environ 9 litres d'air par minute, soit environ 15 000 litres par jour, c'est énorme. Et puis il y a aussi des maladies cardiovasculaires, hein, comme des infarctus, des angines de poitrine ou encore des AVC. Et selon Santé publique France, la pollution de l'air entraîne chaque année 48 000 morts prématurées en France.
Alors, vous, Romain Simia, avec AtmoTract, vous voulez aussi toucher à notre santé, à notre bien-être?
En fait,
devenir un outil de prévention un peu?
C'est vraiment de venir donner les outils aux collectivités, aux décideurs, pour venir comprendre vraiment ce qu'est la pollution sur leur territoire, pour justement mettre en place les bonnes actions, pour justement permettre de diminuer l'impact de cette pollution sur la santé des gens. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour les collectivités, pour les grands groupes, pour justement venir comprendre ce qui se passe et mettre en place les bons plans d'action sur le long terme.
Donc vos clients, ce sont les collectivités, les entreprises?
C'est ça, donc les bureaux d'études, par exemple les ASCA, donc les associations de surveillance de la qualité de l'air, on va venir travailler avec elles pour leur fournir de nouveaux outils, les bureaux d'études et puis tous les grands groupes qui vont être impactés justement par les changements politiques justement sur la qualité de l'air qui viennent en fait d'une envie des citoyens sur tout ce qui est domaine en fait du transport, de la construction, donc tous les domaines justement qui vont avoir un impact sur les gens aux environs.
Donc votre objectif c'est d'avoir une espèce de politique de micro-gestion du territoire, c'est ça, que ce soit un niveau local bien précis, qu'on ne se dise pas à toute une ville d'arrêter d'utiliser sa voiture si c'est seulement confiné à un endroit, c'est ça?
C'est ça, c'est vraiment pouvoir justement adapter les politiques pour justement avoir des offres, des actions qui sont vraiment ciblées sur le territoire pour justement éviter de mettre justement la circulation alternée sur toute la ville de Paris par exemple, justement avoir des actions plutôt en prévention, en amont, pour venir justement modifier certaines règles de circulation, certaines règles sur les chantiers par exemple, pour avoir de moins de pollution aux alentours des chantiers.
Parce qu'il y en a beaucoup.
Pour justement diminuer l'impact sur le micro local.
Guillaume.
Et du coup, est-ce que vous envisagez d'avoir de plus en plus d'indicateurs, typiquement suite à l'incendie de Notre-Dame? Je sais que localement, autour, voilà, il y avait un enjeu. Quand il y a du désamiantage sur certains gros chantiers, est-ce que vous voulez rajouter plein d'indicateurs, de se dire c'est le local et la mesure locale, en fait, c'est ça votre...
C'est ça. Nous, c'est vraiment, par exemple, sur la première version du capteur, on avait seulement les particules fines qui étaient mesurées. Et maintenant, sur la deuxième version, donc, on a plusieurs types de gaz, donc on va avoir aussi le niveau sonore. Donc on va venir justement rajouter petit à petit tout un ensemble de panels de mesures pour justement venir... et avoir une information beaucoup plus précise pour ceux qui vont venir l'utiliser.
Benjamin.
Ce capteur, j'imagine qu'il a un coût. Ça coûte combien en moyenne?
Un capteur, ça va dépendre. On n'est pas forcément sur une prix de vente, un capteur. On est plutôt sur la campagne de mesure, justement, avec un certain nombre de capteurs. Et on va être aux alentours d'une dizaine de milliers d'euros, la campagne de mesure pour une petite collectivité. Sur l'ordre de Paris, ça va être un peu plus de capteurs et donc des coûts qui sont... un peu plus important.
Par exemple, vous pouvez installer des capteurs autour d'une crèche pour voir quel est l'impact pollution d'une crèche?
C'est ça. Ça peut arriver. L'impact pollution, c'est plutôt l'impact de la pollution sur les enfants qui sont dans la crèche.
Oui.
Donc, on est vraiment ciblé sur tous les ERP. Donc, on va voir les crèches, les hôpitaux, donc tous les établissements qui vont recevoir du public sensible pour justement leur fournir des informations pour venir... adapter en fait leur confinement, leur aération face à ce qui se passe à l'extérieur.
Guillaume.
C'est un énorme enjeu de société et on sait bien que toutes les collectivités ont pas assez de budget, elles sont toujours, j'imagine, à faire des économies. Vous amenez un service qui est coûteux, dont les concitoyens ne voient pas forcément le bénéfice tout de suite ou peut-être pas l'idée en tête. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'ils vont faire des économies grâce à votre solution, finalement, étant plus local, plus ciblé?
En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des collectivités ne connaissent pas ce qui se passe sur leur territoire. Donc nous, justement, on vient leur offrir un outil qui est 10 à 20 fois moins cher que les grosses stations officielles pour justement avoir une première information, comprendre enfin ce qui se passe sur ce territoire-là. Après, on vient travailler justement avec les organismes qui vont venir analyser cette mesure pour rendre le service à la collectivité, pour justement venir interpréter et donner du sens à toutes ces données.
On reste ensemble, on continue à parler de la qualité de l'air aujourd'hui.
Il est 13h19. Europe 1.
Porter un masque n'empêche pas de respirer les particules fines et les gaz. Pourtant, il en existe un, il est 100% français et on le découvre dans un instant. Dans le France Bouge, on s'intéresse cet après-midi aux innovations pour améliorer la qualité de l'air. On en parle avec vos invités, Elisabeth, mais aussi avec vous. Dites-nous si vous êtes sensible à ces innovations, si vous souffrez d'une qualité d'air médiocre près de chez vous. Appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, ou écrivez-nous sur Twitter @Europe1Elisabeth.
Oui, parler de la qualité de l'air, c'est aussi parler de pollution qui devient une préoccupation de plus en plus importante pour nous tous. Par exemple, quand on fait du vélo, on s'est tous posé la question, est-ce que je ne suis pas en train d'avaler des tonnes de gaz d'échappement en roulant près des voitures? Alors pour répondre à ces inquiétudes, il y a Mask Génération. C'est une start-up qui vend des masques anti-pollution. Bonjour Simon Sceau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de Mask Génération France. Alors là, vous pouvez en voir certains qui sont très très jolis, je tiens à le préciser. Des masques au design très soigné, des roses, des bleus pour enfants, des un peu plus sauvages nature, des imprimés jungle. Et sa particularité, c'est que ce sont des masques qui sont parfaitement adaptés à la forme du visage.
Vous nous en dire un peu plus?
Alors, en fait, notre projet a démarré maintenant il y a un peu plus de 3 ans et demi, puisque au départ, c'était un souhait assez égoïste, hein, puisque moi-même et la cofondatrice Laura Cooper, on souffrait énormément de la pollution puisqu'on était sur Paris.
Vous veniez d'arriver à Paris?
Alors, Laura venait de Bretagne et est venue faire ses études sur Paris.
Et elle est asthmatique quand
Et voilà, et elle était asthmatique, donc ça a déclenché énormément de crises. Et de mon côté, en fait, je travaille à La Défense et je suis motard. Ah ouais. Donc en fait, en allant tous les jours à La Défense et en revenant chez moi...
Vous avez senti quelque chose, un changement?
Ah, c'est pire que ça, en fait. Au bout d'un an, j'ai été voir un médecin parce que je me sentais fatigué, j'étais pas très bien. Et il m'a dit qu'en fait, j'étais très sensible à la pollution. Et en faisant des tests sanguins, en fait, on s'est rendu compte que ben, j'étais vraiment impacté.
Ah.
Donc ben, tout simplement, j'ai commencé à me questionner sur les solutions existantes.
Vous avez dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça?
Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je reste cloisonné chez moi? Est-ce que j'arrête de respirer le temps des trajets? Tout ça, c'était un petit peu compliqué. Donc, bah, j'ai regardé ce qui se faisait dans le commerce, hein, tout simplement. Mm-hmm. Et j'ai eu le choix assez rapidement entre soit des masques assez stigmatisants, les masques de peintre blancs, qu'on n'a pas tellement envie de porter dans la rue, surtout quand voilà, on est obligé de s'habiller d'une certaine façon pour aller au travail.
Médecine, ouais.
Ou des masques urbains, donc où là on pouvait trouver des designs, mais on n'avait aucune garantie en fait d'efficacité et donc c'est très joli, mais on n'était pas certain de se protéger. Moi, mon objectif c'était de porter un masque
de combiner les deux.
Voilà, où je me sentais bien, qui est joli, mais il fallait qu'il soit protecteur. Donc alors, voilà comment est né en fait Masque Génération.
Et alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait des tests en laboratoire? Comment on arrive à créer un masque joli, efficace?
Bah en fait, on est reparti de zéro. On a regardé tout ce qui se faisait. On a fait un petit peu de la rétro-ingénierie sur tout ce qui était existant et on a regardé les défauts. Et l'un des plus gros défauts des masques, en fait, c'est l'étanchéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez mettre un masque, vous allez avoir des pénétrations de particules en dehors de la matière filtrante. Pour répondre au mieux à ce problème, en fait, on a développé une innovation qui est brevetée aujourd'hui. Notre masque, en fait, il est thermoformable. La gamme Sirocco qui est notre...
Ça veut dire quoi, thermoformable?
Alors, le masque thermoformable, c'est-à-dire qu'avec de la chaleur, vous pouvez former la lèvre du masque pour qu'elle s'adapte parfaitement à votre morphologie, quelle qu'elle soit. C'est très simple. En fait, vous prenez un sèche-cheveux quand vous achetez votre masque au début, 10 secondes, et vous allez le mettre à la forme de votre visage. Si vous avez raté le thermoformage...
Guillaume Gibault est en train d'essayer. Ouais, allez-y, Guillaume.
Et puis, en fait, ce masque-là donc, est un masque assez complexe, assez technique, et y a une répercussion donc, sur le coût. Notre objectif, c'était quand même de proposer un produit accessible et notamment aussi de proposer un produit pour les professionnels.
Donc, vous avez réussi à le mettre au point, vous l'avez testé, il est efficace. Vous nous parlez du coût, il coûte combien?
Alors, l'entrée de gamme pour le Sirocco, c'est 119 euros.
Sirocco, c'est le masque?
C'est le masque en cuir thermoformable que vous avez...
Sur le mannequin?
Voilà. Non, sur le mannequin, c'est un autre modèle.
Ah,
voilà, c'est celui-ci.
Que montre Céline, d'accord. Donc, celui-ci est en cuir et il coûte?
Il coûte 119 euros en entrée de gamme.
Ce qui est quand même un certain coût. Guillaume, votre réaction?
Moi, j'ai un peu deux questions. Je trouve le concept top et je vous suis. Je sais que vous êtes Made in France depuis longtemps, donc forcément, vous étiez dans mon radar. Qu'est-ce qui marche le mieux pour se faire connaître? Est-ce que c'est le web en direct? Est-ce que c'est les magasins de moto? Est-ce que c'est les magasins de vélo? C'est quoi le canal où vraiment vous voyez le plus de traction, comme on appelle ça? Et ma deuxième question, vous avez mis de l'énergie et des moyens pour un brevet qui veut peut-être dire que vous avez une solution unique au monde. Est-ce que vous avez... Et vous allez en vendre partout dans le monde, dans des pays où il y a plein de vélos ou plein de motos, aux Pays-Bas par exemple, ou d'autres pays. Est-ce que c'est le chemin du masque partout dans le monde?
Ah voilà, notre objectif c'est vraiment ça, hein, c'est de pouvoir élargir notre marché en proposant notre masque un peu partout dans le monde. Nous, notre passion c'est vraiment de créer des masques dont on a un vrai plaisir à porter. Après, s'ils protègent, bah, effectivement, c'est super et c'est l'objectif. Mais au départ, c'est d'avoir des masques qui soient un vrai plaisir.
Mais là, vous nous parlez du masque en cuir à 119 euros qui a un certain coût. Mais les masques d'entrée de gamme commencent moins cher.
Alors, c'est en fait, 29 euros, c'est ça? On a vraiment décidé de répondre à un besoin du marché. Et pour ça, on s'est replongé un petit peu dans nos recherches et on a redéveloppé un nouveau masque qui est sorti il y a 3 mois.
Voilà,
ce masque-là s'appelle le masque français.
C'est celui-ci?
Voilà.
D'accord.
Alors c'est juste une marque, hein, c'est
petit
clin d'œil en fait au slip français. et puis surtout, on s'est dit depuis le départ, on s'est vraiment attaché à faire que nos produits soient développés et fabriqués en France. Il y a un moment où on va le claironner.
Vous avez peut-être des choses à faire ensemble d'ailleurs, hein, avec le slip français.
Là, j'entends qu'il y a un masque français.
Il y a un masque slip français peut-être. Benjamin.
Oui, on blaguait pendant la pub de savoir s'il fallait porter le masque pendant l'émission. Si jamais je le porte, est-ce qu'on m'entend? Parce que si je le porte dans la rue, que je parle à quelqu'un, est-ce qu'elle va bien m'entendre?
Eh ben, essayez-le.
Effectivement, le mieux, c'est d'essayer.
Pour reposer la même question.
Mais le but.
Est-ce qu'on m'entend correctement?
Eh ben, très bien.
Alors, ouais. le but, en fait, c'est aussi que, voilà, les personnes soient audibles puisque je vous donne une petite exclue, mais on est en train de travailler pour fournir les forces de l'ordre. Donc, nécessairement, comme j'en ai vu certains en arrivant, ils sont sur des lieux de passage où il y a énormément de véhicules, énormément de pollution. On a aussi des brigades en scooter, à vélo et en moto.
Oui. Et ça, c'est une bonne question. Je voulais force de l'ordre. Est-ce que c'est venu parce que je sais que dans les marchés publics, on pousse de plus en plus pour acheter local, et est-ce qu'on est venu voir en disant, voilà, vous êtes une solution locale parmi d'autres, ou est-ce que c'est vraiment l'usage, le masque, et ils vous ont dit, en fait, on n'est pas équipé de ça, votre produit, il est trop cool, on le veut absolument.
Alors, effectivement, c'est un petit peu des deux. Pour, en fait, avoir parlé avec différentes brigades motorisées, ils m'ont expliqué que c'était nos masques, ils étaient assez cool et fun. Mais en France, voilà, il n'y avait pas encore cet élan-là, alors que dans tous les autres pays asiatiques, vous ne verrez jamais un policier sans masque. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu des deux. Il y a une demande. Et puis, nous aussi, on s'est rapprochés d'eux parce que notre objectif, c'est bien sûr de les fournir.
On reste ensemble. On continue à parler de la qualité de l'air, cette fois au travail.
Il est 13h28.
Europe 1.
Mesurer la qualité de l'air au travail, en salle de réunion, l'air est-il sain ? Eh bien, réponse avec Cozy Air dans un instant. On parle de la qualité de l'air dans la France Bouge. Si vous souhaitez nous appeler, 3921 pour témoigner de la pollution qui vous entoure, par exemple. Vous pouvez également poser des questions à nos invités via Twitter, @Europe1, Elisabeth.
Oui, surveiller la qualité de notre air, c'est possible avec Cozy Air. Regardez-la en direct sur Europe1.fr. Il y a une sorte de petite lampe de bureau. On la branche au courant classique ou on la connecte à une tablette ou un smartphone. Et là, on récupère les données sur notre qualité d'air. Bonjour, Lamia Mialé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de Cozy Air. Vous avez créé votre start-up à Lille. Et comment vous est venue cette idée si simple et si utile, hein ?
Alors en fait, l'idée a démarré donc en 2014. À la base, avec mon associé, on est ingénieur chimiste et spécialisé dans le domaine de la qualité de l'air. Mon associé avait créé sa première entreprise justement dans le domaine de la qualité de l'air où il répondait à une réglementation pour les ERP.
C'est-à-dire en 2014,
donc les établissements recevant du public. Mm-hmm. Donc ça concernait les crèches et les écoles.
Comme les hôpitaux, les crèches ou les écoles.
Alors plutôt les crèches et les écoles. Donc mm-hmm. Il avait fait ça pendant un an, sauf que la réglementation a été modifiée. Et donc en fait, il n'avait plus de marché. Sauf que moi, je l'avais accompagné sur le terrain. Et c'est là où on a vraiment constaté qu'il y avait une problématique de qualité de l'air. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas mesurer la qualité de l'air en temps réel, mais après c'est bien de mesurer, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème ?
Et
c'est là où en fait l'objectif c'est d'apporter un service d'expertise pour améliorer la qualité
donc
de l'air.
Donc on constate avec vous et après vous allez nous aider à trouver des solutions pour que l'air soit meilleur. C'est le cas là en ce moment, on est en train de mesurer la qualité de l'air du studio à Europe 1. Au début, la petite lampe de chevet, de bureau était blanche. Là, elle est en train de devenir bleue. Ça veut dire quoi, bleu ?
Alors en fait, on a conçu donc un dispositif qui s'appelle CareSet, qui permet à la fois de détecter grâce à ce détecteur-là. On a aussi une partie donc, où on analyse, parce que c'est bien beau de pouvoir récupérer des datas de la qualité de l'air.
Mais une fois qu'on le sait, on en fait quoi ?
Voilà, en fait, nous, on va croiser ces datas brutes, donc c'est ces datas brutes qu'on récupère du détecteur, et on va croiser avec des informations liées au bâtiment. Par exemple, est-ce que le bâtiment est localisé à côté d'une route à fort trafic, ou des questions sur les équipements, en termes de ventilation, les habitudes en termes de, par exemple, de nettoyage, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe. Et là, on utilise justement notre intelligence et on a une sorte de petite boîte noire. On travaille sur des algorithmes. Et après, l'objectif, c'est de le visualiser. Donc, de le visualiser sur une application. Alors, l'utilisateur, il peut voir en temps réel ce qui se passe. Il peut être alerté quand il y a un problème de pollution. Et surtout, nous, notre mission, de pouvoir accompagner sur le pilotage prédictif de la qualité de l'air intérieur. Parce que finalement, ça permet de mieux gérer la qualité de l'air et donc de mieux gérer le bâtiment et son exploitation, tout en assurant le confort des occupants. Et là, c'est bleu parce qu'en fait, c'est en fonction du taux de CO2.
Parce que nous sommes plusieurs, peut-être ?
Tout à fait. Donc, on respire beaucoup. Donc, en fait, à un moment, le taux de CO2 est confiné. Donc là, c'est pour ça que ça devient bleu.
D'accord. Donc, en salle de réunion, normalement, c'est bleu.
Généralement. Après, justement, l'objectif, c'est quand c'est bleu, on enclenche une action. Donc, par exemple, de dire à la ventilation, c'est le bon moment de se mettre en route avec le bon débit, ce qui permet de baisser le taux de CO2. Donc, ça, c'est une action qui peut être possible.
Guillaume, ça vous plaît, j'ai l'impression.
Ouais, je trouve ça évidemment très chouette. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer des partenariats avec des fabricants comme Netatmo, par exemple, qui fait des régulateurs sur le chauffage ou sur les différentes caractéristiques de la maison ou sur les humidificateurs qu'on peut avoir dans les chambres d'enfants ? Est-ce que tout ça peut être branché et sans rien faire, en fait, ça vient corriger ce bleu, en fait, tout seul ?
Alors aujourd'hui, on le fait déjà, mais avec tout ce qui est ventilation connectée, parce qu'on travaille sur les bâtiments connectés et intelligents. Donc avec les ventilations, c'est tout à fait possible. Donc ça, on le fait, mais justement pour déclencher des actions. Après, pour tout ce qui est purificateur, etc., nous, aujourd'hui, on n'y croit pas trop, tout simplement parce que les purificateurs vont capter des polluants, donc ça, ce qui est top, sauf que ça va générer d'autres polluants quand ce n'est pas traité aujourd'hui. Donc nous, on préfère conseiller avec des actions que l'utilisateur lui-même peut faire, sans forcément utiliser de grosses machines qui coûtent très cher.
Donc vous dites que les humidificateurs, ça ne sert à rien ?
Pas trop, non.
Ah.
Ça reste à prouver.
Vous mesurez tout un tas d'indicateurs, hein, le dioxyde de carbone, l'oxyde d'azote, tout un tas de polluants en temps réel. Comment ensuite vous les répartissez ? Parce que nous, on ne s'y connaît pas là-dedans.
Alors, la particularité, effectivement, du détecteur, c'est que nous avons un microcapteur par polluant et par paramètre de confort. Donc, ça, ce qui rend la donnée très précise.
Donc là, vous pouvez avoir sur votre tablette chaque polluant de du studio dans lequel
oui,
nous sommes.
Oui, tout à fait. À l'intérieur, vous avez une petite carte électronique qui fait 10 sur 10, en fait, et vous avez différents capteurs. Donc, on mesure le taux de CO2, donc ça, c'est par rapport à la lumière. On a aussi la température, l'humidité, donc ça, c'est vraiment le confort des personnes. Ensuite, tout ce qui est polluant. Donc, on a les COV, donc les composés organiques volatiles, c'est tout ce qu'on trouve, par exemple, dans l'ameublement ou tout ce qui est parfum ou les produits d'entretien. On mesure également le dioxyde d'azote. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les gaz d'échappement, parce que l'influence aussi de l'air extérieur sur le bâtiment. On mesure également les particules fines. Il faut savoir que dans les particules fines, en fait, c'est les poussières. Il en existe beaucoup à différents diamètres. Nous, on mesure les PM1, PM2.5 et PM10. En fait, plus c'est petit, plus c'est facile à nettoyer, vous l'avez dit tout à l'heure. Et dernière chose, on mesure le monoxyde de carbone.
Guillaume.
Donc là, vous vous adressez à des clients B2C, hein, particuliers, qui vont installer ça chez eux.
Donc alors, chez des particuliers, vous
on
voulez
dire ? On n'est que sur du B2B.
Vous êtes que sur les bidons, oui. Ok. Donc du coup, pardon. Ok. Donc et du coup, comment est pareil. Ma question, c'est comment est-ce qu'on les convainc pareil sur un peu ma question tout à l'heure. Qui, le besoin n'est pas forcément parfaitement identifié. C'est un peu technique quand même. On va mesurer plein de trucs dont on n'a pas forcément conscience.
Par exemple, pour une crèche, j'imagine que c'est facile à convaincre.
Oui, bah déjà il y a la réglementation. Donc ouais, oui, effectivement, ouais. On travaille avec des crèches. Donc pour répondre à la réglementation qui est en vigueur. Après, pour répondre à votre question, aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur a un impact sur deux choses. Un impact sur la durabilité du bâtiment. Quand on parle de durabilité, on parle de maintenance, de système de ventilation, etc. Et le fait de gérer ça et de maîtriser ça, ça permet de réduire les coûts. Et donc finalement de redonner de la valeur au bâtiment. Et on parle aussi donc l'impact de la qualité de l'air sur le confort des occupants. On parlait justement des maladies respiratoires, mais il faut savoir que la qualité de l'air joue aussi sur la productivité et l'absentéisme. Donc le fait de maîtriser ça permet effectivement de faire des économies et d'assurer le confort des occupants.
Alors il y a Cozy Air, mais Benjamin, je crois que vous aviez aussi une question.
Oui, je voulais savoir, si j'ai bien compris, là, le bleu, c'est parce que ça mesure le CO2. Mais est-ce que, par exemple, quand ça mesure l'humidité ou autre, ça change de couleur? Il y a un code couleur pour chaque polluant?
Alors, on l'a fait que pour le CO2 parce que c'est le paramètre sur lequel on peut agir tout de suite. Si, par exemple, on n'a pas de ventilation, il suffit d'ouvrir une porte ou d'ouvrir une fenêtre, par exemple.
D'ailleurs.
Et là, on le baisse tout de suite. Par contre, les autres polluants, pour les COV, les particules, etc., on a vraiment besoin de comprendre ce qui se passe avant de pouvoir agir. D'où la partie expertise et analyse qui est vraiment très, très importante. Il faut savoir qu'un bureau avec 3 personnes, ce n'est pas la même chose qu'une crèche avec plusieurs élèves, par exemple.
Donc, ça, c'est... Donc, les paramètres sont différents.
Tout à fait.
Benjamin, je crois que vous avez trouvé aussi une autre entreprise qui veille sur cette qualité de l'air intérieur.
Oui, une entreprise des Yvelines en région parisienne. Son nom, c'est Hygiener. Alors, elle s'est spécialisée, pareil, depuis une quinzaine d'années sur le diagnostic de la qualité de l'air intérieur, donc dans les bureaux, dans les écoles. L'entreprise, en fait, elle va déceler les problèmes, dire ce qu'il faut faire, s'il faut renouveler les sols, par exemple. Et ensuite, les équipes d'Hygiener, eh bien, elles vont mettre à disposition des purificateurs d'air pour chasser entre guillemets les mauvaises particules des locaux. Et l'avantage, c'est que ces purificateurs sont mobiles, donc on peut les changer de pièce à sa convenance.
On reste ensemble, on continue à parler de la qualité de notre air en ce moment sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions, vos témoignages. Avez-vous déjà acheté un masque anti-pollution? Songez-vous à vous équiper, pourquoi pas, de capteurs anti-pollution. On attend vos témoignages au 3921.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h. On parle des innovations qui concernent notre qualité de l'air avec vos invités, Elisabeth Assayag.
Oui, nous parlons des innovations françaises pour notre qualité de l'air. Nous sommes toujours avec notre coach, Guillaume Gibault, le président du SLIP français, avec Benjamin Lévesque de la rédaction d'Europe 1 et nos invités, Romain Simia, le cofondateur d'AtmoTrack. AtmoTrack, c'est un réseau de surveillance de la qualité de vie environnementale. Nous sommes avec Simon Sault, le président de Mask Génération France, qui conçoit et vend des masques anti-pollution urbains adaptés à notre morphologie. Et Lamia Mialé, la présidente de Cozy Air, qui propose un service connecté pour évaluer la qualité de l'air intérieur. Nous avons toujours votre petite lampe de chevet là à côté de moi. On a ouvert la porte pendant la publicité, pourtant c'est toujours bleu. Oui. Céline, je crois que nous avons reçu des questions aussi sur Twitter.
Oui, Twitter hashtag Europe 1. On a Marc qui demande, vos trois sociétés vivent aujourd'hui dans un contexte économique où la conscience environnementale ne cesse de croître. Le ressentez-vous dans vos chiffres d'affaires?
Ah, qui veut répondre en
bonne
premier
question.
Mais oui.
Effectivement, en 2014, quand on a commencé le projet, les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait et pourquoi on faisait ça. Sauf que maintenant, effectivement, les gens en conscience qu'il y a une problématique qualité de l'air et donc se pose plein de questions et aimerait pouvoir améliorer la qualité de l'air ou du moins dans un premier temps la comprendre. Donc effectivement, on le voit.
Il y a un travail pédagogique qui a été fait. Hein. Il y a encore quelques années, on ne comprenait pas très bien tout ce que cela voulait dire. Hein. Guillaume.
Moi, j'ai une question de néophyte. On parle tous d'aller habiter dans le Larzac. Est-ce que vraiment la qualité de l'air est meilleure dans le Larzac ou au final, il faut de toute façon trouver des solutions mesurées et où qu'on soit en France finalement Le nuage de Tchernobyl passe pas vraiment à côté, quoi.
Qui veut répondre ?
Ouais, je vais répondre. Le Larzac, je saurais pas dire exactement si c'est mieux là-bas ou autre, mais en gros, le problème, c'est qu'on va avoir justement cette pollution qui va être émise à certains endroits. Donc, on va avoir les populations qui sont vraiment aux alentours qui vont être touchées en premier, mais après, cette pollution va venir se déplacer. Et donc, en fait, on va justement venir dans certains endroits où on se dit, bon, finalement, il n'y a pas de souci, chez moi, il n'y a pas de pollution, tout est propre. Au final, on va avoir cette pollution qui va venir se déplacer, qui va venir en fait impacter les gens. Et on a d'autres sources en fait de pollution que l'on ne connaît pas, comme l'agriculture, parce qu'on parle beaucoup des véhicules. C'est quelque chose, les gens ont compris que les véhicules polluaient, mais tout ce qui va être en fait agriculture, donc tous les autres corps de métier, vont venir aussi avoir un impact sur la pollution. Et c'est des choses qu'on a, pour lesquelles on n'a pas forcément conscience quand on habite dans le Larzac.
Donc finalement, ces solutions, c'est où qu'on soit, en France et ailleurs.
Et malheureusement, dans les campagnes, l'épandage crée énormément de particules fines, donc d'intoxication.
Et nous sommes en ligne avec Pierre. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Merci de votre appel. Vous nous appelez, vous êtes en Champagne, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Alors, vous avez eu envie de réagir par rapport à ce que nous venions d'entendre ?
Eh bien, moi, je trouve très intéressant la remarque qui a été faite qu'il fallait traiter, dans le fond, enfin, surveiller la pollution et que la pollution n'avait pas les mêmes conséquences selon les lieux où on se trouve.
Oui, selon les
et
communes,
puis, a été évoqué le problème d'argent, de manque d'argent des collectivités pour pouvoir financer, dans le fond, ce procédé très intéressant. Alors, moi, je voudrais faire une réflexion, c'est qu'effectivement, les collectivités n'ont pas beaucoup d'argent, mais dans certains cas, elles le dépensent très mal. Et je vais prendre deux exemples. Les régions vont dépenser beaucoup d'argent dans des autorails à hydrogène, hein, qui vont donc ne pas polluer. Mais en fait, les autorails diesel qui vont être remplacés par les autorails à hydrogène circulent essentiellement dans des zones rurales où, dans le fond, le problème de pollution n'est pas très très important. Dans le même ordre d'idée, c'est la chasse aux autobus et aux autocars diesel. Et pour un certain nombre d'entre eux, alors dans les autobus et autocars qui circulent en centre-ville, là tout à fait d'accord, il faut les remplacer par des véhicules électriques. Mais il y a aussi un grand nombre d'autocars et d'autobus qui circulent dans des zones très peu denses et où la pollution n'a pas une grosse importance. Et pourtant, on va dépenser des sommes considérables pour les remplacer par des véhicules électriques.
Alors...
Donc voilà un peu le raisonnement. Les collectivités n'ont pas d'argent. Mais le peu qu'elles ont, elles le dépensent parfois très mal.
Alors Pierre, merci, vous étiez en train de réagir par rapport aux propos de Romain Simia, vous êtes le cofondateur d'Atmotract. Que voulez-vous répondre à Pierre qui dit donc que les communes finalement investissent pas très bien leur argent pour toutes ces questions écologiques ?
En fait, c'est pas forcément les communes qui vont mal investir leur argent, c'est plutôt en fait en termes d'éducation, de... En fait, les communes, c'est des gens comme vous et moi, c'est des gens qui sont pas forcément en fait... éduquer à la qualité de l'air, et donc du coup c'est vraiment sur cette partie un peu d'éducation qu'on va venir vraiment fournir de l'information compréhensible aux gens pour vraiment qu'ils comprennent en fait ce qui se passe sur le territoire et vraiment qu'ils puissent mettre en place les bonnes actions. Donc c'est pas vraiment que l'argent est mal dépensé ou sur l'hydrogène ou sur le diesel ou autre, c'est vraiment justement comment leur donner les informations pour qu'ils comprennent ce qui se passe et comment justement mieux investir cet argent pour avoir des meilleurs résultats sur le territoire.
Merci hein, Pierre pour votre appel. Benjamin, je me tourne vers vous. On parlait des collectivités locales. Vous nous avez déniché d'autres solutions qui existent.
Oui, il y a par exemple un système de transport intelligent. Hein, c'est la société Gertrude qui fournit ce système. Alors c'est un petit dispositif que l'on place dans sa voiture ou alors sur les infrastructures, les feux tricolores, les panneaux par exemple. Ça va recueillir plein d'informations. Alors ça va des conditions routières, du trafic, si ça bouchonne, les conditions météo, la vitesse de circulation, les retards des bus aussi. Et comme ça, eh bien, on va modifier notre circulation dans sa globalité. Donc dans la régulation des feux tricolores par exemple. Donc on gagne du temps, on économise de l'argent et on réduit sa consommation d'énergie, ce qui veut dire aussi moins de particules dans l'environnement.
Moins de particules dans l'environnement, merci à vous parce que grâce à vous, on en sait un peu plus sur vos innovations françaises hein, qui nous permettent d'améliorer notre qualité de l'air. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler en direct sur
Europe
1. Merci. Il est 13h47.
Europe 1.
Restez avec nous, elle symbolise la beauté, l'amour et la délicatesse. Elle est née en 1886. Les orchidées Vacherot et Le Couf, c'est l'entreprise qui va bien, merci.
Elisabeth Assayag sur Europe 1.
Et c'est l'heure, Elisabeth, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Oui, il cultive 5000 types d'orchidées différentes. C'est l'entreprise Vacherot et Le Couffle, 133 ans d'existence. Bonjour, Colombe Le Couffle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la dirigeante de l'entreprise. Vous êtes la cinquième génération des orchidées Vacherot et Le Couffle depuis 2017.
Exactement, oui. J'ai pris la suite de mon père en 2017. Et il n'y avait pas de questions à se poser.
C'est
finalement.
Ça, vous êtes née dans les orchidées.
Je suis née dedans, voilà. Et j'ai deux sœurs qui me soutiennent bien.
Mais elles ne vous ont pas suivie de manière directe. C'est
voilà,
vous.
Ouais, pour l'instant, c'est moi.
Alors, ça fait depuis 1886 que l'entreprise est située à Boissy-Saint-Léger, en Val-de-Marne. Oui. C'est l'une des plus vieilles pépinières d'orchidées dans le monde.
Exactement, oui.
Quelle responsabilité ?
Oh, bah une responsabilité, non, un plaisir de faire perdurer cette histoire, de développer, de continuer à mettre en avant tout le travail qui a été fait pendant les années. Puisque ça a démarré avec mon arrière-arrière-grand-père qui a commencé à s'intéresser aux orchidées.
Donc tout a commencé avec Henri Vacherot.
Voilà. D'où le nom de l'entreprise qui s'appelle Vacherot et Le Couffle, puisque Henri Vacherot s'est associé avec son gendre. Le mari de sa fille.
Avec son gendre, avec Maurice, c'est ça ?
Maurice Le Couffle.
Donc Henri Vacherot, c'était un jardinier, votre arrière-arrière-grand-père, c'est ça ?
Qui cultivait des œillets
voilà,
à l'époque.
Spécialiste de l'œillet et mm-hmm. qui s'est passionné pour cette plante, pour l'orchidée. Et ouais. au fur et à mesure, il cherche à l'acclimater, il a créé une serre spécialisée. Comment ça a évolué ?
Ça a évolué surtout avec son gendre qui est sorti major de l'école d'horticulture de Versailles.
Donc là, on est dans les années 20. Début du siècle.
Alors, je suis très, très nulle en date. Alors, si vous me posez une question
je vais avoir un
grand blocage.
Ça fait longtemps.
Ça fait très longtemps. Mais c'est à l'époque de la première, deuxième génération qu'ils ont vraiment étudié tout l'aspect hybridation et semis des orchidées.
Alors, c'est-à-dire, ils sont occupés eux-mêmes de la culture in vitro. Et de nombreux hybrides sont créés à partir
d'orchidées qu'ils avaient
dans des
en collection. Oui, ça se fait tout ça se fait en laboratoire dans des milieux stériles. Donc c'est assez particulier. Hein. Moi, je suis pas une botaniste. Je suis née dans les orchidées. Actuellement, on n'a plus de laboratoire. Moi, je les ai connues quand j'étais encore toute petite. Mm-hmm. Mais la partie très précise de toutes les étapes, là pour vous les détailler, ça reste pas ma spécialité à moi. Mais en tout cas, toute la recherche a été faite pendant les trois premières générations jusqu'à mon père qui continue à faire des hybrides et qui me transmet cet aspect-là de savoir choisir les bonnes variétés pour voir lesquelles on va marier pour avoir un résultat qui sera exceptionnel.
Et là, on voit le résultat sur europe1.fr. Le résultat est exceptionnel. Ce sont des orchidées.
Je vous ai apporté un tout petit échantillon d'orchidées qu'on a en fleurs en ce moment dans les serres.
On ne connaît pas ce type d'orchidées. Hein.
Absolument pas.
Hein, vous pouvez nous les décrire ?
Alors, vous les décrire, là, je vous ai apporté une très grosse diversité. Enfin, là, sur le plateau, il y en a 6 ou 7. Vous avez un Cattleya déjà. C'est la très grosse fleur avec un label qui est dentelé.
C'est celle qui ressemble à un iris, un peu.
Oui, elle ressemble à un iris. Elle a un parfum qui est très développé à certaines heures.
Mais là, ça
à
sent
côté,
bon, hein.
Vous avez une fleur qui ressemble un peu à un papillon. On l'appelle le Psychopsis papilio. Il est perché, une seule fleur perchée au bout d'une tige. Ouais. Et une grappe toute fine de micro-fleurs aussi, qu'on appelle dendrochilum, qui sent très bon aussi. Et à côté, un Phragmipedium. C'est celui qui a les très, très grandes moustaches, avec un petit sabot. On peut aussi le surnommer sabot de Vénus. Et ça fait le plaisir de la diversité des orchidées. Je pense que pour ne pas les aimer ou s'en lasser, c'est vraiment difficile.
Mais c'est ça, vous parlez de diversité des orchidées. Et c'est face aux productions hollandaises et asiatiques, c'est là où vous êtes concentré sur cette création de nouvelles orchidées.
Voilà, ouais. Nous, la grosse différence chez Vacherot et Le Couffle, c'est qu'on se base quand même sur la diversité et la qualité des plantes.
Mais c'est pour durer aussi.
C'est pour perdurer, pour pouvoir créer des nouvelles et ne jamais s'arrêter dans le développement des nouveautés. Ouais.
Guillaume,
c'est un peu ma question. Quand on voit des belles boîtes familiales, 5 générations, c'est beaucoup dans un marché où aujourd'hui, il y a de tout à tous les prix. Il y a des gros acteurs installés, il y a des startups qui viennent essayer de prendre des parts de marché. Donc vous, c'est vraiment... pourquoi est-ce que vos clients viennent chez vous spécifiquement? Est-ce qu'ils ont des demandes précises et vous leur faites un développement? Est-ce que c'est les mêmes clients depuis toujours? Est-ce que c'est l'export? Est-ce que c'est...
Alors nos clients, ils sont principalement pour l'instant des particuliers qui viennent chercher chez nous des plantes de qualité. Des plantes très diversifiées, puisqu'on propose, alors pas forcément en quantité, c'est un peu ça qui n'est pas toujours évident avec le système actuel, mais donc on va proposer simplement des variétés qui sont très diversifiées, donc qui vont être pour des collectionneurs ou pour certaines personnes qui ont envie d'apprendre le fonctionnement d'une variété
et
ou d'une autre.
Et puis vous proposez aussi un service aux entreprises pour entretenir ces orchidées, parce Absolument. Que c'est difficile d'entretenir des orchidées.
Voilà, je propose des services aux entreprises qui n'ont rien à faire que d'avoir des belles orchidées tous les jours.
Merci Colombe Lecouffle d'avoir su nous parler des orchidées Vacherot et Lecouffle avec tant de passion. Merci
avec
à
plaisir,
vous.
Merci de m'avoir invité.
C'est la fin de votre émission. Merci Guillaume Gibaud d'avoir joué le
merci
coach. Je rappelle que vous êtes le fondateur du slip français. Merci Benjamin Lévesque. Céline, à demain.
À demain Elisabeth. Elisabeth Assayag. Dans un instant, c'est Christophe Ondelat sur Europe 1.